Si vous voulez bien, on va commencer en demandant au Seigneur de nous guider ce soir. On a besoin de son aide. Prions. Seigneur Jésus, on est à ta disposition cette fin de semaine. On est ici à cause de toi. On te remercie pour le travail qui se fait au Québec, avec JBEC, avec l'AGEC. Et merci pour les déjà témoignages qu'on a entendus de ton œuvre. Et ce qu'on veut voir, c'est toi. On veut te voir travailler à travers nous, autour de nous, en nous. On veut voir ta gloire, Seigneur, comme Moïse voulait voir. On te prie que ce soir, tu parles à nos cœurs. On te prie que tu fasses de grandes choses en nous et autour de nous, qu'on puisse être émerveillé de toi. C'est au nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Vous n'avez pas eu de difficulté à vous rendre aujourd'hui? Est-ce que ça ressemble à ça par chez vous? Vous avez eu beaucoup de neige? Il y a des journées où on se dit, je pense que je n'irai pas très, très loin aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis, comme Guy mentionnait, Jacques Poirier, je suis pasteur à l'église de Port-Cartier et en même temps chiropraticien. Donc, comme on dit, je suis un faiseur de tentes, un peu comme Paul fabriquait des tentes puis servait dans le ministère en même temps. Je pense que de plus en plus, ça devient populaire, cette façon de faire-là, parce qu'on a des endroits où ce n'est pas évident d'avoir quelqu'un à temps plein et qu'on peut subvenir à nos propres besoins, ça aide. Moi, j'ai passé ma jeunesse, quand je suis venu au Seigneur, dans ce sens que moi, je n'étais pas reposant pour mes parents. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux, il m'a sauvé à l'âge de 20 ans, quand j'étais étudiant en première année de chiropratique à Toronto. Et ça a renversé ma vie, moi aussi. Et depuis ce temps-là, j'ai voulu suivre le Seigneur. Mon père m'avait dit, « Ah, ça, c'est une autre de tes folies. Ça ne durera pas longtemps. » Bien là, ça fait 24 ans. Ça dure toujours. Et mon père était mon plus grand... celui qui voulait me ramener dans la bonne voie. Et à peu près 4 jours avant sa mort, il a donné sa vie au Seigneur. Et je m'attends de le voir au ciel. Et je suis une preuve vivante aujourd'hui que le Seigneur fait encore des miracles. J'ai avec moi mon épouse Martine. Martine, si tu voulais te lever, s'il te plaît. Et mes deux garçons, je vais les gêner comme il faut, Joseph et Paul. Vous voulez vous lever un petit peu? On est très content d'être ici. Et en plus, bien, on est parti de Port-Cartier et on s'est rendu jusqu'à Val-d'Or pour venir. On a manqué la route. À un moment donné, il fallait tourner à droite, puis on s'est rendu. À un moment donné, on était rendu à Val-d'Or. Non, on avait de la famille là-bas et on est allé passer quelques jours à Val-d'Or. On est bien content d'être ici, surtout que, même si on ne vous connaît pas vraiment, dans un sens, on vous connaît parce que ça fait un bout de temps qu'on prie pour cette conférence ici. On ne vous connaît pas, mais en même temps, on vous connaît parce qu'on a prié pour vous. Puis, on a prié que Dieu fasse des grandes choses dans nos cœurs en fin de semaine. Dieu veut faire des grandes choses dans nos vies. Il veut que, justement, nos vies comptent pour lui. Et moi, je vais vous expliquer comment ça a commencé pour moi, l'évangélisation selon la voix du Maître. Plusieurs d'entre vous, peut-être, connaissez les films Left Behind. Vous avez soit vu ou entendu parler. Les films Left Behind, c'est une série qui a été faite par Tim LaHaye et un autre monsieur qui s'appelle Larry Jenkins. Et dans le troisième film Left Behind, l'acteur principal, Kirk Cameron, qui est celui qui fait Buck Williams, a une série, quelque chose dans la partie des bonus features à la fin. Et il explique que dans la vraie vie, lui, l'évangélisation, ça lui tient beaucoup, beaucoup à cœur. Et il nous dirige vers un site Internet. Le site Internet Way of the Master. Et Way of the Master, en français, ça veut dire « la voie du maître ». Et sur ce site-là, c'est là que j'ai découvert une approche d'évangélisation qui est un petit peu différente de ce que j'avais entendu au Québec. Et comme Guy disait, Des façons d'évangéliser, il y en a plusieurs. On ne peut pas dire qu'il y en a une mauvaise et qu'il y en a une bonne. Et là, je suis en train de vous dire ce soir que With the Master, c'est la seule bonne façon d'évangéliser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus au Seigneur bien avant que cette méthode-là soit, popularisée. Mais simplement, ce qu'on veut faire, c'est prêcher l'Évangile comme Jésus faisait. Way of the Master, la voie du Maître. Prêcher l'Évangile comme les disciples le faisaient durant le temps du livre des Actes. L'aspect principal qui m'a accroché, moi, dans la question « Way of the Master », c'est la question de la loi avant la grâce. On prêche la loi avant de prêcher la grâce. On prêche la loi aux orgueilleux et la grâce aux humbles. Ça ne fait pas vraiment de sens que quelqu'un soit intéressé d'entendre l'Évangile s'il ne voit pas son besoin de l'Évangile, besoin d'être sauvé. Et donc, quand j'ai commencé à saisir cet aspect-là, j'ai fait venir un peu leur matériel. J'ai fait venir des livres, j'ai fait venir des DVD, et j'ai parcouru leur site Internet. Et c'est là que j'ai vu un peu comment ils fonctionnaient. Et je vous dirais que l'approche pour moi, j'ai trouvé qu'elle était très biblique, dans ce sens qu'il prend Jésus pour modèle, et on le voit quand il évangélise, par exemple, avec la Samaritaine au puits. Et on le voit quand il évangélise avec le jeune homme riche. Et comment il utilise la loi, et ça je vais vous en parler un peu plus tard, pour amener la personne à voir son besoin du salut. Donc, c'est une chose qui m'a marqué, c'est une approche qui est biblique. Un deuxième aspect qui m'a marqué, c'est que c'est une approche qui est logique. Avant de vouloir un remède, il faut réaliser qu'on est malade. Et parfois, dans l'évangélisation, on passe très, très rapidement Romains 3, 23, Romains 3, 10, quelques versets sur le péché, parce qu'on se dit, il ne faut pas que je parle trop du péché, il ne voudra plus rien entendre. Et là, tout de suite, on va à la grâce, au salut. Mais le problème, c'est que vous ne me convaincrez pas de prendre un médicament si je ne réalise pas que je suis malade. Le médicament a peut-être pas mauvais au goût, mais je ne prendrai pas de médicament à moins que je réalise que je suis malade. Donc, c'est logique, il faut que la personne réalise qu'elle est pécheur, perdue, ayant besoin d'être sauvée avant de vouloir un sauveur. Troisième aspect, pourquoi ça m'a accroché, c'est que c'est une méthode qui est simple. J'ai suivi des cours d'évangélisation, puis parfois on a l'impression qu'il faut tellement savoir toutes sortes de choses pour pouvoir répondre à toutes les objections possibles. Et à un moment donné, on se dit, mais je ne serais pas capable. Qu'est-ce que je vais dire s'il me dit telle chose? Ça devient tellement lourd. Mais la méthode, l'approche de la voie du maître, c'est qu'on contourne l'aspect de l'argumentation pour aller directement à la conscience d'une personne, de lui faire prendre conscience de son péché, de sa culpabilité devant Dieu. Et on n'argumente pas. On fait simplement lui montrer la loi de Dieu et on touche la conscience. Donc, c'est une méthode qui est simple. On n'a pas de grand corps de matière à apprendre. C'est très simple. Un quatrième aspect, c'est que cette méthode-là aussi, elle est efficace. Elle est efficace dans ce sens qu'elle nous permet d'aller directement aux choses importantes. Pensez-vous que ça prenait longtemps à Jésus pour entrer dans les choses spirituelles avec quelqu'un? Rappelez-vous quand il parle avec la Samaritaine au puits, combien de temps ça lui a pris? Est-ce que ça lui a pris 5 ans pour tisser une amitié avec la Samaritaine? Non. Quand il a parlé avec le jeune homme riche, comment ça lui a pris? Une trentaine de secondes peut-être, il était rendu dans les choses de Dieu. Et avec cette approche-là, j'ai trouvé que c'était possible et même facile d'entrer dans les choses de Dieu rapidement et de ne pas tourner autour du pot. Parfois, on a parlé du Seigneur pendant 2 heures, on a parlé de l'Apocalypse, on a parlé de la Genèse, on a parlé de toutes sortes de choses. On n'a pas parlé de la culpabilité, de la perdition et du salut. Mais avec cette approche-là, on ne tourne pas autour du pot, on va directement aux choses importantes et rapidement. Et je peux vous dire qu'en prenant des gens qui font du pouce sur le bord de la route, ça m'est arrivé souvent de pouvoir, après, m'être intéressé à eux et avoir parlé avec eux pendant un certain temps, tout de suite rentrer dans les choses spirituelles, et c'est facile avec ça. Un autre aspect dans tout ça, c'est que c'est une approche qui est conviviale. Et ça, pour moi, c'est tellement important, parce que moi, je peux vous dire que je ne suis pas une personne qui est d'un naturel, qui a la parole facile, puis qui va vers les gens, puis c'est facile pour moi. Non, c'est pas facile. Et moi, j'ai besoin d'une approche qui ne va pas rebuter les gens. Je ne veux pas éloigner les gens par ma maladresse. Et moi, je voulais une méthode qui était conviviale. Et avec la méthode de la voix du maître, c'est qu'on pose des questions et la personne répond. Et on s'intéresse sincèrement aux réponses. Donc, c'est la personne qui va parler le plus longtemps. Et savez-vous quoi? Les gens aiment ça parler. Ça vous est déjà sûrement arrivé de prêcher l'Évangile, puis de voir la personne, puis là, elle cherche la porte de sortie, puis elle a juste hâte que tu arrêtes pour pouvoir s'en aller. Comment je peux faire pour m'en aller d'ici? Sûrement, vous avez vécu ça. C'est pas agréable. Tu vois que la personne, là, elle voudrait tout faire, sauf être en train de t'écouter parler. Mais quand tu poses des questions, puis vous remarquerez, si vous lisez les Évangiles, remarquez combien de fois Jésus pose des questions. Le Fils de Dieu, qui connaît toutes choses, pose des questions. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Des choses comme ça. Si Jésus pose des questions, peut-être que ce n'est pas une mauvaise méthode. En posant des questions, la personne répond et la personne aime parler. Donc, il va moins facilement se fatiguer de notre discussion. Une méthode conviviale. Donc, OK. Je pensais que c'était vraiment bien. Un des aspects que j'ai beaucoup aimé, c'était les DVD. Il y a des DVD qui ont produit et non seulement ils expliquent comment faire cette approche-là, mais ils le font et ils se sont filmés en train de le faire et on peut les voir en train de mettre en pratique la méthode d'évangélisation avec la voix, selon la voix du maître. Et moi, ça m'a beaucoup encouragé parce que oui, j'aime ça, apprendre des principes, mais j'aime vraiment pouvoir le voir en pratique. Et surtout, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est de voir le visage de la personne avec qui on prêche l'Évangile. Au début, c'est très, très convivial. La personne est un peu fanfaron, rit, a du plaisir, mais en même temps, à mesure que la personne devient de plus en plus face au commandement de Dieu, on voit la personne qui commence à réfléchir. Et on voit le Saint-Esprit qui commence à convaincre et on voit son attitude changer. Et notre but, c'est vraiment pas de boucher une personne, c'est vraiment pas de la torpiller, mais on voudrait vraiment que le Saint-Esprit convainque de péché, de justice et de jugement pour qu'elle se repente et qu'elle soit sauvée. Et donc, dans les vidéos, je voyais ça. Et ce qu'on a fait, ces vidéos-là, ces DVD-là qui m'ont le plus, je dirais, allumé sur cette approche-là, il n'y a rien de disponible en français. Et on s'est dit, ah, il faut remédier à ce problème-là. Il faut faire quelque chose en français. Et on est allé avec Guillaume qui est là, on est allé au cégep de Sept-Îles et on est allé faire des entrevues avec la méthode d'évangélisation selon la voix du maître. Et c'est ce qui constitue nos épisodes face à face. Et j'aimerais commencer en vous montrant ce que ça a l'air, un premier face à face avec la méthode selon la voix du maître. Et c'est bien. La première personne qu'on va voir, c'est Jean-Félix. Jean-Félix, tu vois le... OK, c'est beau. C'est ça. On va avoir trois personnes, Jean-Félix, Véronique et Jean-Michel. Ce soir, on va voir l'entrevue qu'on a faite avec Jean-Félix. Et ce que je vous demanderais pour cette entrevue-là, j'ai demandé à Jannick Assavec de ne pas filmer l'entrevue parce que quand on a fait les entrevues, on disait aux personnes qu'on faisait ça pour une conférence sur l'évangélisation et on allait le montrer à la conférence, mais... Ils nous ont spécifié qu'ils ne voulaient pas avoir ça sur l'Internet. Donc, j'ai demandé à Jannick de ne pas filmer les épisodes face à face et je vous demanderai la même chose, de ne pas immortaliser ça sur votre téléphone cellulaire ou des choses comme ça pour que ça éventuellement se retrouve sur l'Internet parce que nous, on voudrait respecter l'engagement qu'on a pris envers ces personnes-là. Mais en contrepartie, moi, j'aimerais vous encourager que si ce que vous entendez aujourd'hui et demain vous allume et que vous aimeriez éventuellement faire vous-même des clips comme ça. Moi, j'aimerais en faire d'autres pour que ça puisse aller sur l'Internet, qu'on leur dise, ça, on aimerait le mettre sur l'Internet. Et s'ils sont d'accord, là, on pourrait avoir ça disponible pour les gens à la grandeur de la province. Si ça vous allume, il va y avoir des choses demain que je vais expliquer un petit peu comment on pourrait aller de l'avant et faire ces choses-là. Fait que ça sera à nous de pouvoir en produire d'autres qu'on pourra avoir sur l'Internet. Donc, Jean-Félix. Une des choses qu'on peut voir, et sûrement vous allez être d'accord avec moi, c'est que dans l'évangélisation, on ne peut pas toujours arriver à une profession de foi. Et vous allez voir qu'avec ces vidéos-là, c'est la même chose. On n'arrive pas toujours à une profession de foi. Mais le point, c'est qu'on peut se poser la question, est-ce que la prédication de l'Évangile a été efficace même s'il n'y a pas de profession de foi? Oui, parce que si on a réussi à présenter ce que la parole de Dieu dit à la personne, à mettre la personne face au commandement de Dieu, face à ce que Dieu exige d'elle pour qu'elle puisse aller au ciel, et si ça fait réfléchir la personne, même si elle ne fait pas profession de foi à ce moment-là, ce n'est pas nécessairement un échec. Moi, je peux vous dire que la première fois qu'on m'a présenté l'Évangile, ça a été, du point de vue de l'évangéliste, un échec total. J'ai opposé la personne jusqu'au bout et la personne n'a eu aucune espèce d'idée que je pourrais m'être converti plus tard. Mais pourtant, je suis ici aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un échec de présenter l'Évangile. Et on voit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, si on présente le vrai Évangile, c'est un succès de l'avoir présenté, même s'il n'y a pas de réponse immédiatement. Et un autre passage, Matthieu chapitre 7, Jésus dit, « Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène vers la vie, et il y en a peu qui l'y trouvent. » Donc, une bonne approche d'évangélisation, ce n'est pas nécessairement une approche qui produit beaucoup de professions de foi en disant « Mets Jésus dans ta vie, tout va bien aller. » Ce serait faux de dire ça parce que Jésus, il promet que si on se donne à lui, on va avoir des persécutions, on va avoir des épreuves. Donc, une bonne approche d'évangile, c'est une approche qui va droit au but et qui explique ce que Dieu exige pour qu'une personne puisse entrer au ciel. Ce qui a été un grand encouragement pour moi, ça a été vraiment de voir qu'est-ce qu'on va voir comme étant le reste de l'histoire. Quand on prêche l'Évangile, quand on donne un traité à quelqu'un, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris en lisant des livres de Randy Alcorn. Peut-être que quelques-uns ont entendu parler. Mais lui, il met beaucoup d'emphase sur l'éternité. Qu'est-ce qu'on va voir dans l'éternité? Et dans l'éternité, on va possiblement voir des gens qui vont venir nous voir et qui vont dire « Hey, tu m'as prêché l'Évangile. Regarde, je suis rendu ici aujourd'hui. Aimerais-tu voir aussi d'autres personnes qui sont venues avec moi? Ce qui s'est passé avec moi? » Et donc, dans l'éternité, il y a vraiment... C'est de voir le reste de l'histoire. On peut semer dans la vie de quelqu'un et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe immédiatement. La première personne qui m'a parlé de l'Évangile, moi, c'était à Toronto, en première année d'études en chiropratique, et la personne m'a simplement demandé « En quoi est-ce que tu crois, Jacques? » Simplement, cette question-là, ça a fait basculer ma vie. Parce que, en essayant de lui expliquer en quoi je croyais, au bout de 45 minutes, d'avoir étalé toute mon ignorance devant elle, je me suis senti venir rouge et j'ai réalisé « J'ai aucune idée en quoi je crois. » Et après ça, j'ai compris, il faut que je sache qu'est-ce qu'il y en est. C'est à partir de ce moment-là que le Seigneur a commencé à m'attirer à lui et à travers la parole, à travers les lectures et tout ça, j'ai compris que j'étais pécheur perdu, je m'en allais en enfer. Donc, une simple question, cette approche de la voix du Maître nous amène à poser des questions aux gens. Une simple question peut faire chavirer la vie d'une personne. 1 Pierre 2:9, pour moi, m'a vraiment convaincu que évangéliser, ce n'est pas seulement pour les apôtres, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, ce n'est pas seulement pour les disciples du temps des Actes, c'est pour moi aussi. Ça, c'est le verset qui m'a le plus convaincu. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, si moi, je peux dire que je fais partie du peuple acquis, Est-ce qu'on peut dire ça ce soir? Moi, je fais partie du peuple de Dieu. Bien, j'ai été sauvé afin que j'annonce les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça m'inclut moi. C'est pas seulement une mission qui a été donnée aux apôtres dans ce temps-là, mais c'est une mission qui m'est donnée à moi aujourd'hui. Et moi, donc, j'ai toujours cherché, même si je ne suis pas à l'aise personnellement, foncièrement, je ne suis pas un fonceur comme ça, j'ai toujours cherché des moyens à annoncer l'Évangile autour de moi. Et Dieu a rendu ça plus facile avec le temps. J'ai pu faire gibet et j'ai pu annoncer l'Évangile, mais ça a été une lutte pour moi. Dieu a même trouvé bon de sauver quelques personnes à travers mon évangélisation et des personnes qui, depuis 20 ans, suivent le Seigneur encore aujourd'hui. Donc, si Dieu peut faire ça dans ma vie, il peut le faire dans la vôtre. Ça, c'est encourageant pour vous. Je ne suis pas, le tempérament qui a une facilité à évangéliser, mais je suis convaincu d'une chose, je ne peux pas ne pas parler du Seigneur. Ce n'est pas une option, ce n'est pas si ça me tente, je dois le faire. C'est un commandement que le Seigneur nous a donné. Maintenant, assez parlé de moi, j'aimerais qu'on puisse parler de toi. Une question que j'aimerais poser, c'est une question importante. Pourquoi est-ce que tu es ici ce soir? Plusieurs possibilités. Quelqu'un m'a appelé pour m'en parler. J'avais le goût de savoir c'était quoi cette fameuse méthode-là. Je suis responsable de ministère, donc il fallait que je vienne. Toutes sortes de raisons, les unes meilleures que les autres. Mais moi, j'aimerais placer un défi. Devant toi ce soir, je ne crois pas que tu sois venu ici par hasard. On ne croit pas au hasard. Je crois que Dieu veut faire de grandes choses cette fin de semaine. Et le défi, c'est de demander au Seigneur de faire quelque chose de grand par rapport à ce qu'on va entendre. C'est des outils, mais pour que les outils puissent faire un travail, il faut que nous, on les utilise. Donc, le défi, c'est, est-ce qu'on est prêt à demander au Seigneur de faire quelque chose de grand en nous, en moi, cette fin de semaine? Une autre question que j'aimerais vous poser, plus corsée celle-là. Pourquoi est-ce que tu es ici sur la terre? C'est quoi la raison pourquoi tu es ici sur la terre? Et peut-être que tu viens d'une famille chrétienne, peut-être que tu as grandi dans l'Église, peut-être que tu viens carrément d'un milieu où on ne connaissait pas l'Évangile du tout et tu es sorti des ténèbres, maintenant tu marches dans la lumière. Pourquoi est-ce que tu es ici sur la terre? Et avant de répondre à cette question-là, on va regarder deux choses. Deux aspects, moi, je pense, qui sont fondamentaux pour nous, la vie sur terre, la vie de l'homme sur terre. Premier aspect, c'est notre raison d'être dans l'univers. Qu'est-ce qu'on fait ici dans l'univers? Pour la majorité d'entre nous, notre place dans l'univers, c'est le centre de l'univers. Je vous explique. Si je regarde ici et que je me tourne, je me trouve à être l'axe sur lequel tout tourne. Je me trouve à être, dans ma pensée, le centre de l'univers, le nombril du monde. Ça, c'est l'homme naturel. Et c'est le chrétien quand il n'y a pas les idées à bonne place. Je suis le centre de l'univers. Tout tourne autour de moi, je décide et c'est par rapport à moi que je décide. Ça, c'est la façon dont la majorité d'entre nous, on opère naturellement. Mais la réalité, c'est quoi? Dieu est au centre de l'univers. Et ça, c'est tellement important. Et même, c'est fondamental. C'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu qui soutient tout par sa main puissante. C'est Dieu qui garde tout. C'est Dieu qui dirige l'histoire. C'est Dieu qui a décidé tous les événements de l'histoire et qui amène toute chose à la conclusion que lui a décidée. C'est Dieu qui incline le cœur des rois où il veut. Dieu est au centre de l'univers. Où est ma place à moi? Moi, je tourne quelque part autour de Dieu, avec le reste de l'univers. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de vraiment mettre devant nos yeux et de réaliser. Dieu est au centre et moi, j'existe à cause de Dieu. J'existe pour Dieu. Dieu, en Jésus-Christ, on voit dans Colossiens 1, 16, « Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Donc, c'est Dieu au centre. Faut que je change ma façon de voir, faut que je change mes lunettes. Deuxième chose qu'il faut voir aussi, c'est notre place, non seulement dans l'univers, mais notre place dans le temps. Et quand je pense à la vie, moi, je pense que je vais vivre éternellement. J'ai 44 ans, bientôt 45. Et vous êtes, pour la plupart d'entre vous, plus jeunes que moi, mais savez-vous, dans ma tête, moi, j'ai encore 18 ans. Quel âge t'as, Guy, dans ta tête? Dans ta tête. T'as 18 ans. 20 ans. Mais pourtant, on a un pied plus avancé vers le tombeau que vous autres. Il dit « parle pour toi ». La vie sur Terre, 100 ans pour les toffes, c'est combien par rapport à l'éternité? C'est pas beaucoup. 100 ans par rapport à l'éternité, c'est pas beaucoup. Psaume 39, verset 6 dit « Ma vie est comme un rien devant toi. Elle est comme un souffle, une fumée, une poussière. C'est rien. » Notre vie, si on voulait vraiment l'illustrer par rapport au reste de l'univers, c'est un point. C'est un point qui a un début et une fin. C'est limité dans le temps. C'est pas très gros comparé à l'infini de l'éternité. Et l'éternité, elle, Guy, tu nous demandais un peu, ça ressemble à quoi l'éternité? Moi, je vais vous donner une autre image. L'éternité, c'est comme une ligne qui s'en va sans arrêt, éternellement, infiniment, dans l'infini, et qui dure toujours. Et ce qui est intéressant, c'est que on va soit avec Dieu, près de lui pour l'éternité, ou sans Dieu, loin de lui pour l'éternité. Les deux destinées sont totalement opposés. On est sur la terre en attente d'une ou l'autre de deux destinées totalement opposées. Une destinée, Proverbe 11, verset 7, « À la mort du méchant, son espoir périt et l'attente des hommes iniques est anéantie. » Le lac de feu pour l'éternité. Et l'autre destinée, Psaume 116, verset 15, Elle a du prix aux yeux de Dieu, la mort de ceux qui l'aiment. Pour le croyant, l'éternité, c'est « j'arrive à la maison ». Deux destinées totalement différentes. Ténèbres, lumière. Félicité éternelle, malheur éternel. Enfer, ciel. Et nous, on organise toutes nos vies, limitées, la fumée, et on investit tout pour le point. Voyez-vous? On investit tout pour le point. Et on oublie l'éternité. Donc, résumé, les deux choses dont je voulais qu'on regarde ce soir, c'est Dieu est beaucoup plus grand qu'on l'imagine. Il est au centre de toutes choses. On devrait vivre en fonction de sa volonté, en fonction de ses priorités, en fonction de ses désirs. La deuxième chose, c'est que l'éternité est beaucoup plus longue qu'on peut l'imaginer. Et donc, notre vie sur terre, c'est simplement le portique du ciel. C'est la pratique avant le spectacle. On devrait vivre et prendre nos décisions en fonction de l'éternité. Qu'est-ce que Dieu en pense? Qu'est-ce que ça va changer dans l'éternité? Et donc, on revient à notre question de tantôt. Pourquoi est-ce que tu es ici, sur terre? C'est quoi ma raison d'être dans l'univers? Et là, on va réfléchir en considération avec ce que Dieu en pense, pas ce que moi j'en pense. Faire de l'argent, avoir une famille. Qu'est-ce que Dieu en pense? Parce que ce que Dieu en pense, c'est ça qui a l'impact éternel. D'où je vais aller pour l'éternité. Ésaïe 43, verset 7, Dieu parle des hommes, il dit « Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire. » Pourquoi est-ce que j'existe? Pour la gloire de Dieu. J'existe pour la gloire de Dieu, pour le louer, le glorifier, lui rendre gloire éternellement, maintenant et éternellement. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, pourquoi est-ce qu'ils existent? Pour la même raison. Et c'est pour ça qu'on a besoin de leur parler. Parce que s'ils ne glorifient pas Dieu volontairement et joyeusement, ils vont le glorifier par leur damnation. Parce que Dieu est juste en punissant le mal. Et on ne voudrait pas ça pour ceux qu'on aime. On ne voudrait pas ça pour les gens autour de nous. 1 Pierre 2, verset 9, comme on disait tantôt, « Tous ceux qui appartiennent à Dieu, qui font partie de son peuple, sa nation sainte, son peuple acquis, mais c'est en vue qu'on annonce les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, qu'on glorifie Dieu auprès de ceux qui ne le connaissent pas, qu'on devienne des adorateurs et qu'on appelle d'autres autour de nous à devenir des adorateurs. » Donc, Dieu a créé l'homme, la femme, il les a mis dans le jardin. Il leur a dit « Dominez sur la terre en mon nom. » Et on sait que dès Genèse 3, ils ont rejeté le règne de Dieu sur leur vie. Et leurs enfants aussi ont rejeté le règne de Dieu sur leur vie. La rébellion s'est propagée sur toute la surface de la terre. Dieu a donné les sacrifices. Il a donné à l'homme un moyen pour pouvoir être pardonné de ses péchés. Il a envoyé les prophètes qui disaient à l'homme, « Revenez à Dieu! » Et qu'est-ce que les hommes ont fait aux prophètes? Ils les ont lapidés, sciés, torturés, tués. Et Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour être le sacrifice parfait une fois et pour toutes, pour enlever, ôter les péchés du monde. Et qu'est-ce que l'homme a fait au Fils? Ils l'ont crucifié. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est vivant aujourd'hui et il nous a confié une mission, une tâche, d'aller et de faire connaître cette bonne nouvelle. Et Dieu dit, Jésus disait, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Nous, là-dedans, en quoi ça nous concerne? Quand Jésus a commencé son ministère terrestre, il voit Pierre, il voit André sur le bord de la mer de Galilée, dans Marc 1, verset 17, et il leur dit, « Suivez-moi, puis je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Vous faites la pêche, moi je vais vous apprendre à pêcher des hommes. » À la fin de son ministère terrestre, Jésus dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pourquoi est-ce que tu es et pourquoi est-ce que je suis ici sur la terre? Qu'est-ce que Dieu en pense? On est ici pour la gloire de Dieu. On est ici... As-tu déjà pensé que si Dieu voulait... simplement qu'on le loue puis qu'on le glorifie comme ça, ça aurait été beaucoup plus facile de tout de suite nous amener au ciel. Ça serait beaucoup plus facile pour nous de le louer, de le glorifier en sa présence déjà. Pourquoi est-ce qu'on est encore ici sur la terre? Parce qu'il reste d'autres adorateurs à aller chercher. D'autres gens qui doivent glorifier Dieu et qui ne sont pas rentrés encore dans la bergerie. Marc 16, 15, Jésus a dit à ses disciples, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Est-ce que la mission est terminée? Au Québec, est-ce que la mission est terminée? C'est quoi le pourcentage d'évangéliques au Québec? En dessous de 1 % 0,6 de 1 % Il y a 3500 groupes ethniques dans le monde qui n'ont rien entendu de Jésus. Aucun témoignage verbal, aucun témoignage écrit, aucune portion de l'Écriture traduite, 3500 ethnies. Mais au Québec, on a beaucoup de travail. J'ai eu l'occasion d'aller en Afrique, au Zaïre, en 1989, parce que je voulais voir si Dieu m'appelait au champ missionnaire. Et quand je suis arrivé au Zaïre, j'ai passé une semaine et demie là-bas à évangéliser. Il y avait beaucoup de besoins, mais j'ai vu un gros doigt là-bas. C'était un index qui me pointait, puis qui me montrait, « Jacques, il y a beaucoup de besoins au Québec. » Il y a beaucoup de besoins en Afrique, mais va voir chez toi. Il y a beaucoup de besoins au Québec. Ça, c'est mon histoire à moi. Je suis content d'être au Québec parce que je sais qu'il y a beaucoup de besoins au Québec. La mission n'est pas encore terminée. Et c'est ça dont on va parler en fin de semaine. Évangéliser selon la voie du Maître. On va regarder dans les sessions. La première session, ma raison d'être dans l'univers, c'est ce qu'on vient de voir ce soir. La deuxième session, demain matin, le secret le mieux gardé en enfer. Pouvez-vous garder un secret? Moi aussi. Le secret le mieux gardé en enfer, demain matin. En fin d'avant-midi, on va examiner c'est quoi une vraie et une fausse conversion. Après dîner, on va regarder la méthode, l'approche, comment évangéliser selon la voie du Maître, comment Jésus faisait. Et en fin d'après-midi, on va avoir un atelier pour pratiquer ensemble et répondre aux questions de comment mettre en pratique cette méthode-là. Dans votre petit paquet de feuilles que vous avez reçu, vous avez un résumé, c'est la feuille verte, un résumé de la méthode. Et c'est ça qu'on va voir samedi après-midi ensemble. On va voir cette méthode-là pour que ça puisse être quelque chose de vivant et de que vous pouvez ramener à la maison et lundi matin, mardi matin, l'utiliser. Et le soir, on va avoir un défi pour la mission. Et ceux qui sont responsables de ministère, sur l'heure du midi, on va regarder ensemble un petit peu comment pouvoir aller plus loin avec ce matériel-là. On va essayer de répondre aux questions et comment est-ce que ça peut devenir utile dans notre coin de pays. Par où on est passé ce soir? Réalisons que tout l'univers tourne autour de, pas moi, mais Dieu. Pourquoi est-ce que je suis ici sur la terre? Une raison pour la gloire de Dieu, glorifier Dieu. Et que Dieu soit glorifié dans ma vie et partout ce qui ne l'est pas encore, dans le reste de l'univers. On pourrait résumer ça. Ma raison d'être ici sur la terre, c'est connaître Christ, connaître Dieu et le faire connaître. La vie ici sur la terre, elle est très courte comparativement à l'éternité. Donc, les choix, je voudrais les faire tôt, maintenant, pour que ça puisse compter dans l'éternité. Dernière question, as-tu 2 minutes avant qu'on termine? As-tu 2 minutes pour qu'on puisse simplement faire silence et demander à Dieu, « Seigneur, les choses qu'on a entendues ce soir, c'est peut-être des choses qu'on a déjà entendues, mais cette fin de semaine, fais quelque chose de grand dans ma vie. Montre-moi ces outils d'évangélisation. Fais quelque chose de grand dans ma vie. » Prenons 2 minutes devant Dieu, simplement pour lui demander. Vous, entre vous et Dieu, et à la fin, je terminerai. Seigneur notre Dieu. Place devant nos yeux cette réalité, que tu es le centre de l'univers, que contrairement à ce que je ressens, que j'expérimente dans ma vie naturellement, tout tourne autour de toi. J'existe pour ta gloire. Et le monde existe pour ta gloire. Les inconvertis existent pour ta gloire. Mais aussi cette réalité que je suis ici pour un court temps. Donne-nous à cœur, Seigneur, que notre temps compte pour toi. Fais quelque chose de grand en nous cette fin de semaine. Parle à nos cœurs. On te prie. Au nom de Jésus, pour sa gloire. Amen.